بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب أجمعين. Un point sur l'actualité, et puis ensuite on passera à quelques questions autour de la fête du Eid. Vous êtes tous au courant de l'actualité. Un homme du nom de Hervé Gourdel a été fait prisonnier, fait otage par ses ravisseurs. Et c'était un homme âgé de 55 ans, père de deux enfants, un homme qui était guide de montagne au parc national de Mercantour, au nord de Nice. Il a été fait prisonnier alors qu'il était en Algérie, pour tourisme. Et finalement, il a été sauvagement exécuté par ces tortionnaires. Et ils ont même été... C'est-à-dire que la barbarie a été tellement loin qu'ils ont diffusé cette vidéo. Et il vous suffit de vous mettre à la place de la personne victime ou de sa famille pour vous rendre compte de l'horreur de ce qui s'est passé. En même temps que notre cœur s'émeut, s'attriste pour ce genre de barbarie, en même temps que notre conscience s'indigne pour ces actes injustifiables, en même temps, on n'oublie pas les autres victimes dans le monde entier, qui sont aussi, voire même plus sauvagement, tués à petit feu par la famine, la soif, les maladies, ou de manière plus brutale par des puissances occidentales qui essaient de justifier leur colonisation, leur vol, leur spoliation des terres et des richesses des peuples par des beaux mots, des beaux concepts comme la démocratie, la liberté, la lutte contre le terrorisme, tout ça, évidemment, simplement pour servir leurs intérêts de domination et de spoliation des richesses. Les musulmans sont-ils des égorgeurs? Les musulmans sont-ils des coupeurs de tête? Des sanguinaires? D'après les médias, oui. Dans l'opinion internationale et aujourd'hui nationale, oui. Les musulmans sont comme ça. Mais dans la réalité, que ça soit au travers de l'histoire ou même aujourd'hui, de nos jours, ceux qui commettent le plus de crimes, qui commettent le plus d'attentats, ceux qui sèment la désolation et le désordre mondial, ce ne sont pas les musulmans. Bien au contraire, toute personne juste qui analyse les conflits dans le monde remarque que les musulmans sont plus victimes de la barbarie qu'ils n'en font. Et d'ailleurs, peu importe, on n'est pas là pour essayer de savoir qui fait le plus de mal, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les athées. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir, est-ce que le musulman aurait des gènes, aurait une prédisposition à couper des têtes? Et la réponse est simple. Et la question est même ridicule. Mais on est obligé de se la poser. Parce que c'est finalement ce que disent les médias. Nous sommes des êtres humains, nous les musulmans. Nous avons les mêmes aspirations que n'importe quel être humain. On veut le bonheur sur terre. On veut la paix. On veut fonder une famille, avoir une situation professionnelle stable. On veut faire du bien et qu'on nous fasse du bien. On n'est pas des méchants. Nous sommes des êtres humains. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Pourquoi certains musulmans passent de l'autre côté et deviennent des extrémistes? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, c'est le même processus que l'on retrouve dans n'importe quelle société. C'est le même processus que l'on retrouve dans n'importe quel genre humain, dans n'importe quelle religion. C'est qu'à un moment donné, les êtres humains commettent des atrocités, soit parce qu'ils sont aveuglés par la haine, soit parce qu'ils sont aveuglés par des intérêts personnels. Aveuglés par la haine et le désir de vengeance, c'est le fameux terrorisme aujourd'hui. C'est-à-dire que certaines personnes, et ils sont minoritaires, extrêmement minoritaires, voient de l'injustice dans le monde. Et comme ils ont une mauvaise compréhension de leur religion, et qu'ils sont sous l'effet de la haine, ils se permettent de tuer des innocents. Et, au passage, ils justifient leurs atrocités par l'islam, la religion, pour se donner bonne conscience, ou pour tout simplement s'attirer encore et encore des adeptes. Mais tout ça, c'est faux. Au fond, ces gens n'ont pas agi selon l'islam. Ils n'ont pas agi selon l'islam. Ils n'ont pas lu le Coran, étudié la vie du prophète bien-aimé, et tout d'un coup, une révélation leur est venue, ils se sont dit, on va égorger. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne et ça marche. Ce sont des gens qui ont souvent un passé chaotique, qui vivent souvent dans des situations instables, et donc psychologiquement, ils ne sont pas totalement, comme le dit l'expression, finis. Ils voient de l'injustice, et au lieu de chercher des solutions pacifiques et efficaces, alors ils font appel à la violence. Ça, c'est un scénario, une explication, une analyse. L'autre analyse, c'est que ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont tout simplement des gens qui sont manipulés ou parfois, et ça existe, il ne faut pas se leurrer, ce sont des gens tout simplement qui sont ennemis de l'islam et qui servent des intérêts étrangers, des agendas politiques. Parce que pour envahir un pays et pour voler ses richesses, à un moment donné, il faut que les puissances occidentales trouvent des justifications. Et donc, ils créent des soi-disant attentats, qui sont en fait le fruit direct ou indirect de leur politique. Ça, c'est aussi un cas qui est présent. Et vous n'avez qu'à vous renseigner juste dans l'histoire du 20e siècle de ce qu'on appelle les opérations sous faux drapeau. C'est-à-dire, on prétend que ce sont des attentats commis par tel ou tel pays ou tel groupe, alors qu'en fait, ce sont des puissances occidentales qui sont derrière. Ce sont des choses qui sont bien connues. Dans tous les cas, nous les musulmans, lambda, citoyens français, nous condamnons évidemment tout meurtre, toute injustice qui serait perpétrée contre des innocents, sans distinguer l'homme de la femme, le vieillard de l'enfant, le musulman du non-musulman, le blanc du noir. Ça c'est clair, c'est un principe en islam, la vie est sacrée. Même la vie d'un animal doit être respectée et on rendra compte devant Dieu du mal que l'on pourrait faire contre un animal. Fût-ce un insecte. Voici une parole authentique du prophète, alayhi salam, rapportée par le Bukhari. Un prophète était allongé sous l'ombre d'un arbre. Il s'est endormi. Une fourmi a mordu son orteil. Il se réveille et sous la colère, il va demander que l'on brûle toute la fourmilière. Et Dieu va tout de suite le reprendre en lui disant, pourquoi tu as tué les autres fourmis? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? À la limite, si tu avais tué cette fourmi parce qu'elle t'a fait du mal, ça pourrait se comprendre. Mais qu'est-ce qu'ont fait les autres fourmis, ses congénères? Adi ibn Hatim, un compagnon du prophète, والسلام, il donnait du pain aux fourmis en leur disant, vous êtes des êtres vivants comme moi, je vous nourris. Une fourmi. Un homme et une femme sont entrés au paradis, comme nous le dit notre prophète, le très miséricordieux, parce que cette personne a abreuvé un chien assoiffé. Il est entré au paradis. Cette personne est entrée au paradis. Une femme est entrée en enfer, nous dit le prophète, parce qu'elle a emprisonné un chat. Elle l'a ni nourri, ni ne lui a laissé la liberté de chasser de lui-même. Si déjà Dieu nous juge et il peut nous punir si on fait du mal à un animal, que pensez-vous si on touche à un être humain ? Nous sommes peut-être la religion qui donne le plus de sacralité à la vie, de manière générale avec un grand V, même les plantes. Et la vie humaine a plus forte raison. Vous savez que l'avortement est interdit. On considère que dès qu'il y a fécondation, il y a un être humain en projet, une vie qui se constitue. On n'a pas le droit d'arrêter le processus naturel de la vie. Sauf dans des cas exceptionnels pour préserver la vie de la maman ou d'autres cas exceptionnels. Et on n'a pas d'euthanasie en islam, un vieillard en fin de vie. Parce que la vie est sacrée. Donc, si on revient vers les sources de l'islam, le Coran ou la vie du prophète, mais attention, quand on y revient sans arrière-pensée, parce que si on aborde les textes religieux avec une mauvaise intention, on va manipuler les textes religieux, comme le font certains extrémistes musulmans, ou certains orientalistes, ou des personnes ignorantes. Ils vont vous prendre des versets qui parlent de la guerre. Et ils vont vous délaisser des versets qui parlent de paix. Ils vont dire, mais regardez, vous n'êtes pas une religion de paix, puisqu'il y a des versets qui traitent de la guerre. Des paroles du prophète, où lui-même il a participé à des batailles. Et on dit à ces gens, il y a sur terre des gens méchants. Même si vous voulez être en paix avec eux, ils vous font la guerre. Soit vous restez les bras croisés et on vous fait du mal, soit vous vous défendez. Et il y a, et tout le monde le reconnaît, une violence légitime. Une violence légitime, c'est la légitime défense. La légitime défense, il y a une violence, mais elle est justifiée. Je me défends. Toutes les batailles qu'a entrepris le prophète والسلام, et toutes les paroles de Dieu qui traitent de bataille et de guerre, c'est toujours de la légitime défense, une réponse à une agression extérieure. Et c'est comme ça que réagit tout être humain normalement constitué. C'est qu'avant qu'il se prenne une claque, il baisse la tête. Et si on lui met une gifle, alors il en remet une, afin que la personne en face se calme. Il y a une différence entre le bourreau, l'oppresseur, l'opprimé et la victime. Les deux violences ne sont pas sur un même pied d'égalité. Ceux qui ont été les auteurs des plus grands génocides à travers l'histoire, et revenons juste à l'époque contemporaine, ce ne sont pas des musulmans. La première et la deuxième guerre mondiale, la guerre froide, les grands génocides du XXe siècle, qui sont derrière ? Des musulmans ? Non. Donc soyons justes, et arrêtons de nous faire croire à travers les médias que le musulman, il a le monopole du mal, et que c'est un terroriste ambulant, caché. C'est faux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que faire ? Regardez, juste hier, pour ceux qui ont pris l'autoroute vers 11h, en direction de Paris-Denain, juste à la sortie, la bifurcation pour aller vers Denain, c'était bloqué. Et on est passé par l'aire de repos La Sentinelle. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des fourgons de policiers et des brigades, je pense, antiterroristes, avec des mitraillettes armées, la douane présent. Ils ont arrêté des voitures et des camions. Et à votre avis, qui était dedans ? D'après leur faciès, des musulmans. En tout cas, des gens d'origine maghrébine. Vous vous imaginez, déjà quand vous êtes dans un embouteillage, vous en avez marre, vous vous dites, mais qui est derrière ça? Vous arrivez, vous voyez des gens armés, la tension augmente, la pression s'accroît. Et quand vous voyez le visage de ces musulmans ou de ces arabes, tout de suite, n'importe qui fait la relation entre ça et la vidéo de la décapitation. Pire, voire même pire, samedi c'est le jour de l'Aïd, beaucoup de musulmans vont pratiquer le sacrifice, ça va conforter dans l'esprit des non-musulmans que nous sommes des gens assoiffés de sang. Puisqu'on pratique un sacrifice, on immole un mouton ou pas. Donc ça c'est la réalité et on doit composer avec. C'est comme ça, malheureusement, mais les gens, beaucoup de gens, sont victimes des médias. Alors que faire? Ben écoutez, on l'a dit, on le répète. On doit faire un pas vers eux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont allergiques. Ils sont repliés. On doit faire un pas vers eux pour essayer de désamorcer la bombe, pour essayer de calmer l'atmosphère. On est obligé, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse un pas vers eux. Il faut que vous discutiez avec vos voisins. Il faut que vous discutiez avec vos collègues de travail et que vous faites appel à leur raison parce qu'ils sont sous l'effet de la passion en leur disant « Ce qui s'est passé, moi je n'ai rien à voir. Il y a une justice. Ce meurtrier, il sera jugé et il paiera. Moi je n'ai rien à voir. Et si je dois partager une part de la responsabilité, alors toi aussi, mon ami, tu partages une part de la responsabilité. Parce que je vais trouver dans le monde des gens qui sont de ta religion, ou de ta philosophie, ou de ton bord politique, qui commettent des abus. Donc, essayez de les faire réfléchir. Et ce sont des choses qui sont logiques, qui coulent de soi. Mais bon, les médias sont trop forts. La deuxième solution, c'est que le jour de l'Aïd, comme c'est un jour de fête, eh ben vous offriez des gâteaux à vos voisins. Et si vous êtes des élèves, à vos professeurs. Ce sont des gestes simples mais symboliques. Ce sont des gestes de paix, d'amour. Et l'amour vaincra. L'amour vaincra si Dieu le veut et si nous le voulons et nous faisons les efforts. Ça, c'était la première chose qu'il fallait dire. La seconde, c'est que des gens se posent la question. Qu'est-ce qui est le mieux que je pratique moi-même? Le sacrifice, le jour de l'Aïd, ou que je délègue cet honneur à une personne à l'étranger, à une association, à un organisme, afin que la viande soit distribuée. En termes de priorité, regardez, certains n'ont pas la place pour pratiquer un sacrifice, c'est une chose. Certains ont la place, mais la viande de mouton, ils ne la supportent pas. Ou alors c'est trop, ça va rester trop longtemps dans le congélateur. Ou alors, il y a différentes raisons. Très bien. Ça c'est une chose. La deuxième c'est que faire pratiquer le sacrifice dans un pays étranger où il y a des pauvres, ça va nous amener à l'objectif du Eid. L'objectif du Eid c'est quoi? Allah nous le dit dans la sourate Al-Hajj. Afin de nourrir la personne pauvre. Afin de nourrir la personne dans le besoin. L'objectif du sacrifice, c'est de se rappeler de l'histoire de Abraham, mais aussi de sa générosité, et d'offrir une partie de la viande. C'est ça l'objectif du Eid. Donc si vous envoyez, par exemple, par le billet du Secours islamique du CBSP, 150 euros à Gaza, en Palestine, ou dans un autre pays, et les prix divergent, vous le savez, ce sacrifice sera pratiqué là-bas. Vous avez préservé la sunna du sacrifice. Vous avez récompensé pour ça. Deuxièmement, vous accomplissez l'objectif du sacrifice et que la viande revienne aux pauvres. Donc en termes de hasanat, c'est plus rentable. Maintenant, moi mon conseil c'est quoi? C'est que on ne délaisse pas totalement le sacrifice. Tant qu'on peut le faire, on le fait, mais en même temps, un an sur deux, ou voire même plus que ça, on envoie, parce qu'on a de la viande tous les jours. Et que des gens n'ont de la viande que ce jour-là, le jour de l'Aïd. Et enfin, Nous sommes dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. C'est un mois spécial, un mois sacré. Le prophète ﷺ nous dit « Il n'est pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées de Dieu que ces jours-là, c'est-à-dire les 10 premiers jours. Ce sont, si tu accomplis des œuvres de bien durant ces 10 jours, c'est durant ces 10 jours où tu recevras la plus grande récompense. Prière à la mosquée, prière en plus, durant la nuit ou avant les prières obligatoires, faire des sadaqat, des aumônes, rendre service aux gens, présenter ses condoléances, rendre visite aux personnes nécessiteuses ou isolées ou malades, faire du bien à sa famille, faire des cadeaux. Toutes les œuvres du bien que tu feras durant ces 10 jours seront énormément récompensées. Et n'oublie pas, vendredi prochain, le jour de Arafah, la veille du Eid, le 9e jour de Dhul-Hijjah, de jeûner. Car le prophète ﷺ nous dit, jeûner ce jour expie les péchés commis de l'année passée, l'année écoulée, et de l'année à venir. Les petits péchés sont effacés. Et si vous pouvez jeûner plus que ça, c'est-à-dire ces jours-ci, c'est encore mieux. Nous allons faire des invocations pour la famille Guéfif, car la maman ou la grand-mère pour les petits-enfants est décédée, et on fait des invocations pour cette maman, que Dieu lui fasse miséricorde. Nous allons également faire des invocations pour une famille qui a fait une sadaqa, des invocations pour tout le monde, évidemment. Et demain, incha'Allah, samedi, nous faisons appel à vous pour nous donner un coup de main à la mosquée pour des travaux. Nous voulons refaire la peinture des salles, car dimanche, c'est la rentrée. Nous voulons faire quelques réparations afin d'accueillir nos enfants dans les plus beaux locaux, afin qu'ils soient à l'aise. Donc, regardez, nous sommes durant les 10 premiers jours, c'est l'occasion de faire du khair à la mosquée et on sera grandement récompensé. Donc demain à partir de 8h et jusqu'au soir, vous êtes conviés, Inch'Allah, à venir en aide à votre mosquée. La mosquée de Béthune est venue aujourd'hui pour nous demander de les aider dans leur projet de construction ou de rénovation de la mosquée. Faisons preuve de générosité, qu'Allah nous récompense. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن ترحم هذه المرأة اللهم إنها أمتك بنت أمتك ناصيتها في يدك اللهم ارحمها وتجاوز عنها اللهم تجاوز عن سيئاتها وأدخلها الفردوس الأعلى اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك اللهم من تصدق علينا فبارك له في ماله وبارك له في صحته وأهله اللهم كما جمعتنا في بيتك فجمعنا في جنتك وفقنا لفعل الخيرات في هذه الأيام المباركة اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة